Quelle est la caractéristique de notre monde que le Christ veut mettre en valeur? Arrive-t-il que le faible vienne à bout du fort? Et même que le plus faible impose sa volonté au plus fort? Entre nos ennemis, les plus à craindre sont souvent les plus petits. Peut-être vous souvenez-vous de cette fable de Jean de La Fontaine, le lion et le moucheron. Le moucheron qui l'emporte sur le lion. Mais dans notre parabole, est-il possible que l'humain, en plus une femme veuve, puisse avoir raison du puissant ? Luc prend soin, et vous l'avez certainement bien entendu, d'exprimer tout de suite le sens de sa parabole. La prière incessante est indispensable, ainsi que la lutte contre le découragement. Et dans cette parabole, ce n'est plus une affaire d'amis, comme dans une autre parabole de l'Évangile de Luc, où un ami vient déranger son ami la nuit pour lui demander du pain. Ici, c'est une affaire d'ennemis. Nous avons deux personnages, le juge, l'homme fort, invincible, immoral. Il ne craint pas Dieu et il est insensible aux humains. C'est un juge dans la ville, rattaché ni à une synagogue, ni au temple, mais à la cité. Il relève donc de la justice profane. On peut dire qu'il a une conscience éthique et professionnelle au degré zéro. Il est aux antipodes de l'idéal de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui célèbre ceux qui servent Dieu dans la sainteté et la justice. C'est un homme parfaitement hermétique, impassible. On ne peut l'apitoyer. On peut dire que son personnage est clos, fermé, ou dit autrement, il est blindé, cuirassé, étanche, voire invulnérable. Mais il n'agit pas. Il n'y a aucune action décrite au début de cette parabole pour le juge. Au contraire de la veuve qui, elle, agit. La veuve, c'est totalement l'opposé du juge. Puisqu'elle est dépouillée, c'est même le mot pour traduire la veuve, elle est dépouillée de tout, d'un parent, elle n'a rien. C'est l'image inverse, la faiblesse même, la vulnérabilité totale. Elle n'a personne pour la défendre, elle ne peut rien. Et en plus, il ne fait pas bon être veuve dans ces temps-là. On peut dire qu'elle est l'incarnation de la fragilité, de la dépendance. Il est donc improbable que cette veuve soit entendue, qu'elle gagne. Et pourtant, elle réclame justice, elle réclame vengeance, elle a un adversaire, un ennemi. En fait, elle lutte contre l'impunité. Donc, la partie est jouée d'avance entre un juge et la veuve. Et pourtant, elle va gagner. Comment ? Avec la seule arme qu'elle a, la patience et l'obstination. Car elle ne vient pas qu'une seule fois, mais de nombreuses fois, frapper à la porte du juge. Longtemps, nous dit le texte, elle réclame. Elle n'est pas résignée, elle combat jusqu'à ce que le juge craque. Et le juge va se mettre à réfléchir, un dialogue intérieur. Mais est-ce pour rendre justice à la veuve ? Pas du tout. En fait, c'est pour sa tranquillité à lui, parce que cette veuve empoisonne sa vie. Elle vient à bout de sa patience, elle le lasse. Et même cela va beaucoup plus loin parce qu'on a un verbe très imagé, C'est comme si elle lui donnait des coups à chaque fois, comme si elle le molestait, le boxait. C'est comme s'il recevait en quelque sorte un coup en pleine figure. Un œil au beurre noir. David et Goliath. Et c'est Goliath, le juge, qui se retrouve avec un œil poché. Car la veuve est traitée comme un agresseur, avec comme arme l'obstination. En fait, les veuves mettent KO les plus solides. Le juge accepte de satisfaire la veuve pour se protéger. Il redoute l'obstination de cette femme. Il sent qu'il ne peut pas s'en débarrasser et que sa tranquillité est désormais en péril. Pour l'évangéliste Luc, la veuve est l'illustration vivante de la prière incessante du croyant. La communauté primitive attendait un retour imminent du Seigneur. Marquée par l'apocalyptique, la communauté s'est appropriée cette parabole. Elle l'applique à son sort. Elle souffre de l'absence de Dieu et attend avec impatience la rétribution. Et l'attitude qu'elle adopte pendant ce temps d'attente, c'est la supplication. Elle crie à Dieu. Et la foi ici, c'est un cri de souffrance, un appel au secours. Il y a un lien étroit entre la foi et la prière. Et là où il y a la foi, il y a la prière. Mais osons-nous l'avouer, nous rêvons souvent d'une Église puissante et nous désespérons de notre faiblesse. Au lieu de nous crisper sur nos faiblesses, nous devrions utiliser les deux armes qu'utilise la veuve de la parabole, la patience et l'obstination. Aujourd'hui, comme l'a dit le responsable des franciscains, c'est le rassemblement régional de l'ACAT, c'est-à-dire de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Poitou, Charente, Limousin, ça représente 7 départements. Et l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture repose sur 2 axes, l'action et la prière. Et lorsque nous intervenons auprès de tous les juges iniques du monde, qu'ils soient présidents, dictateurs, chefs de gouvernement, tortionnaires, nous faisons appel aux droits et aux traités et aux conventions signées et ratifiées par leur pays. Nous leur écrivons et nous insistons, d'où le poids des lettres pour faire pression. Et lorsqu'il y a beaucoup de lettres qui s'entassent sur le bureau de ces juges uniques, ou au contraire beaucoup de de courriels, qui bloquent leur boîte aux lettres, il arrive que ces chefs de gouvernement, ces dictateurs, libèrent des prisonniers, changent leurs conditions de vie. Mais comme dans la parabole, nous savons que notre action ne repose pas sur la croyance en on ne sait quel progrès de l'humanité. Dans ce domaine, l'humanité n'a fait aucun progrès. Non, notre obstination, comme celle de la veuve, les dérange et dérange leur tranquillité et abîme leur image sur le plan international. Alors, peu importe les raisons du changement de leur comportement, pour nous, ce qui est important, c'est que pour celui ou celle qui est libéré et obtient justice, c'est un retour à la vie. Vous pensez que c'est peut-être pas beaucoup, que c'est comme une goutte d'eau dans l'océan. Mais peut-être connaissez-vous cette autre parabole qui n'est pas évangélique. Que c'est cet enfant qui passe son temps à rejeter à la mer les étoiles qui ont échoué sur le sable. Et l'adulte qui le voit faire, de lui dire « C'est une tâche impossible ce que tu fais. Même si tu continues tout le temps à les rejeter une par une à la mer, compte tenu des milliers et des milliers d'étoiles de mer qui se sont échouées, à la fin de la journée, on ne verra pas beaucoup de différence sur la plage. À ce moment-là, le jeune garçon, qui venait de prendre délicatement une étoile de mer, s'est redressé. Il a regardé droit dans les yeux et avec un grand sourire, il a dit « D'accord, peut-être que ça ne changera pas beaucoup de choses sur la plage, mais pour cette étoile de mer-là, ça fait une sacrée différence. » Nous écrivons, et d'ailleurs nous vous proposerons un appel pour 4 femmes condamnées à mort au Cameroun à la sortie tout à l'heure. Donc, action et prière. Et notre foi au Christ ressuscité nous pousse à prier pour tout être humain, parce que nous croyons que chaque être est à l'image de Dieu, le torturé comme le tortionnaire, comme le dictateur. Mais il nous arrive, reconnaissons-le, de baisser les bras, comme Moïse. Et nous avons besoin de relais, d'hommes et de femmes qui soutiennent notre prière. Nous savons pourtant qu'en face de nous, notre prière n'est pas entendue par un juge sans foi ni loi, mais par le Père de toute miséricorde. Alors, soyons une Église priante, soyons tous des obstinés de la prière, dans la prière. Amen.